Mon cher Bill, bonjour.
Bonjour.
Nous nous connaissons depuis plus de 15 ans et nos années passées à la Philharmonie de Paris, à la Cité de la Musique auparavant et maintenant à Bordeaux me font le grand plaisir de t'accueillir ici, de t'interviewer à la librairie Mola, qui est un lieu de référence pour pouvoir rendre plus parlant des personnalités comme la tienne, qui sont des artistes complets. Tu es, tout le monde le sait, un immense musicien. Tu es, aux yeux de certains, un monument vivant parce que tu as dit, vous voyez son... Je le dis avec beaucoup de respect, mais aussi de sincérité, parce que tu as su montrer aux Français combien la musique française était notre patrimoine que quelquefois. Je pense quand tu as commencé à œuvrer dans les années 70... c'était pas encore du tout si clair que ça pour nous. Tu le dis de temps en temps, les Français n'avaient pas conscience de la confiance qu'ils pouvaient avoir en eux pour jouer cette musique-là. Et je dois te dire que maintenant, le temps est passé, nous pouvons te remercier de la confiance que tu nous as donnée, nous, Français, de voir quand Lully, Charpentier, Rameau, tous ces monuments de musique étaient les nôtres et qu'on pouvait les jouer tout aussi bien que d'autres grands monuments des cultures italiennes, britanniques et allemandes, sans complexe, avec fierté. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un ouvrage magnifique qui vient de sortir, qui éclaire non pas le claveciniste, le chef d'orchestre, mais l'amateur de beauté naturelle, l'amateur de jardin. Et c'est un lieu magnifique à Tirée, en Vendée, que tu as fait à ton image. Et c'est ce parcours que peut-être nous allons avoir ensemble à partager. Bonjour Bill.
Bonjour, cher Emmanuel.
Par quoi veux-tu commencer ? Si, imaginons que nous ne connaissions pas Tirée, le lieu où sont prises toutes ces photos et où ont été dessinées ces illustrations magnifiques. Comment est-ce que tu présenterais ce lieu ?
L'histoire de Tirée est une histoire extrêmement personnelle. Je voulais trouver un endroit où je pouvais effectivement faire quelque chose de bien, m'exprimer autrement que par la musique. J'avais surtout besoin d'une belle bâtisse. Pas en très bon état, car je voulais me lancer dans une restauration, mais je voulais surtout pas avoir un jardin établi. Je voulais en quelque sorte avoir une sorte de terrain sans jardin, et c'était ce que j'ai trouvé. Et comment cela ? Tout simplement, j'ai trouvé une maison qui était une métairie. Depuis 1640, depuis peu après la chute de La Rochelle, car la maison était construite par une famille protestante. Mais depuis cette date-là, il y avait des métayers, plusieurs générations de plusieurs familles. Et en effet, si on pouvait pas vendre ce qu'on cultivait ou manger, c'était tout simplement jugé superflu. Voilà. Donc j'ai eu la possibilité de m'exprimer autrement que par la musique. Mais en effet, c'était une sorte de séparation, pas tout à fait. Suivi. Car en effet, le jardin, j'ai conçu ce jardin pour faire de la musique dedans. Et qui plaît beaucoup, maintenant que ce jardin a une certaine maturité. Car en effet, depuis un nombre d'années, nous accueillons un public, mais surtout les musiciens et les jeunes musiciens, car c'est un lieu de travail, mais un lieu pédagogique aussi. Et ce jardin est là pour, en quelque sorte, aider cette nouvelle fondation qui a comme but de faire la musique baroque dans un contexte, je dirais, rural. Voilà.
Quand tu as créé ton académie du Jardin des Voix, après avoir été professeur au CNSM de Paris, au Conservatoire supérieur de Paris, tu arrivais d'un jardin, en fait. Aussi, d'un jardin où tu pouvais faire grandir des artistes, pousser des artistes. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable entre les artistes que tu vois grandir sous ton aile, que tu conseilles, que tu encourages, et les végétaux, les plantes?
Oui, évidemment, je fais pousser des plantes, et j'ai une collection de jeunes plantes musiciens, n'est-ce pas, enfin, n'est-ce pas que, voilà. Et nous sommes là au moment où, ça commence vraiment à avoir vie. Je ne sais pas si vous, ici présente, vous connaissez cet aspect des arts florissants. Et c'est un phénomène extraordinaire. Tous les deux ans, on peut se trouver à Buenos Aires, comme on peut se trouver à Tokyo, en tournée avec les arts florissants. Et ça nous donne la possibilité de faire des auditions. Des auditions dont le but est de... parmi peut-être quelques centaines de candidates, c'est plus facile car en effet on a une des tournées parfois assez longue et nous pouvons imaginer les auditions à Buenos Aires ou même à Tokyo ou en passant par Madrid, Berlin, voilà. 6 à 8, mais cette année, 10 jeunes chanteurs au tout début de leur carrière, à l'aube de leur carrière, sont sélectionnés. Pourquoi nous insistons sur cet âge et ce début d'une carrière? Car en effet, c'est très difficile. Très difficile pour les jeunes musiciens de commencer une carrière. Ils quittent l'école de musique, il y a un conservatoire. Sur quelle porte doit-on frapper? Qui sont les gens? Est-ce qu'on essaie d'avoir un grand impresario qui fournit les grandes maisons d'opéra? Est-ce que ça marche comme ça? Ou est-ce qu'il, alors nous avons la possibilité de leur donner un répertoire. Alors, on travaille ce répertoire pendant un bon mois. Et puis, grâce à, comment dire ça humblement, grâce à notre notoriété, nous pouvons les placer dans les plus belles salles au monde. C'est une bonne recette. Et en effet, quand on voit la liste des réussites, c'est impressionnant.
Très impressionnant.
C'est très impressionnant.
Et c'est surtout impressionnant parce que on sent que tu ne leur demandes pas forcément de choisir entre la musique qu'on appelle baroque pour aller vite. Le répertoire ancien avec des instruments qui sont moins sonores, peut-être que certains instruments modernes, et le répertoire après Mozart. On sent que des personnes comme Stéphanie Doustrac, Sandrine Pio, qui ont été des Patricia Petitbon, qui ont été des figures que tu as soutenues, en qui tu as cru, tu ne leur as pas demandé de ne chanter que la musique du 18e, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très frappant dans ton enseignement. C'est un enseignement ouvert, comme tu conçois que la musique soit en connexion avec d'autres formes d'art. Tu aimes cette ouverture?
Le choix de répertoire est critique. Et ce choix nous distingue de d'autres ensembles et d'autres projets pédagogiques. Ce qui est absolument vrai, c'est que maintenant, les grandes opéras, les grandes maisons, un peu partout dans le monde, n'est-ce pas, sont obligés d'inclure un répertoire qui n'existait pas du tout il y a 40 ans ou 50 ans, à savoir le répertoire lyrique des 17e et 18e siècles. Et pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui fréquentent ces palaces lyriques, n'est-ce pas, exigent un répertoire qui est plus élargi. Alors, donc, moi, nous choisissons, on choisit les voix, fait qu'ils peuvent peut-être chanter aussi Mozart ou une bonne quantité de répertoire 19e ou même 20e siècle. Mais notre mission, je crois, c'est de tout simplement assurer fait que cette musique plus ancienne, l'opéra italien, français, allemand, anglais, n'est-ce pas, soit mieux défendue, plus crédible, plus éloquente. Car en effet, si les opéras se trouvent dans l'obligation de présenter M. Purcell ou M. Vivaldi, très souvent, le résultat est franchement un peu décevant. De vivre, par exemple, n'est-ce pas, dans une maison d'opéra loin de la France, n'est-ce pas, une œuvre de Monteverdi ou une œuvre plutôt peut-être de Rameau ou de Lully, avec des gens qui n'ont aucune notion du texte, aucune pratique, n'est-ce pas, en fait, de la langue, qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, les exigences de cette musique pour qu'elle puisse retrouver son éloquence. Parfois, oui. Nous avons un boulot à faire cette année, enfin, n'est-ce pas, de prendre ces jeunes gens. Et vous savez, ce soir, vous qui écoutez le concert dans l'auditorium, vous avez une Portugaise, un Américain, deux Français, une Anglaise, voilà, en train de chanter la musique française. Une musique qui demande beaucoup de savoir-faire, beaucoup, pour avoir une éloquence et un rapport avec son auditoire.
Voilà. Quel mot, quel adjectif tu utiliserais pour définir la musique française ou le style français ?
Mais c'est comme tout art français. C'est tout de suite, on reconnaît effectivement un peintre français du XVIIe siècle. Est-ce que vous écoutez Debussy, est-ce que ça peut être japonais ou non. L'art musical français est français, surtout quand il s'agit, n'est-ce pas, de la langue. Car en effet, comme nos anciens nous ont dit depuis des siècles, la musicalité de la langue française est toujours présente. Oui.
Oui. Est-ce que ton jardin, si on revient à Thierry, est un jardin français ?
Non. Non. Je suis un éclectique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un jardin pour les puristes, et Dieu sait qu'il y a des puristes. L'art français du jardin est quelque chose de constant depuis le début du 17e, milieu du 17e siècle. Donc, j'ai pêché par un éclectisme, n'est-ce pas, enfin, qui n'était pas du tout apprécié par ces puristes. Quand j'ai révélé effectivement mon jardin après une dizaine d'années fait de pousses, si j'ose dire, ça a provoqué l'ire, n'est-ce pas, d'un nombre d'ayatollahs du jardin à la française. Non, Christine, il n'a pas compris qu'on ne peut pas associer ça avec cela. Non, avec, évidemment, le canon de Monsieur Lenôtre ou d'autres, n'est-ce pas, était à respecter. Oui.
Tu ne voulais pas recréer un petit Versailles chez toi ?
Pas du tout. Non. D'abord, je n'ai pas les moyens. Mais surtout, vous savez, c'est un petit peu... Il y a un argument, en fait, pour les gens qui pratiquent la musique ancienne, les gens d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut être sûr d'être sur la bonne voie, ayant des oreilles qui ont vécu Webern et Wagner et Pierre Boulez et Mais c'est comme un petit peu comme le jardin aussi. Enfin, moi, je suis un Américain. J'ai connu les Arts and Crafts Garden au début du XXe siècle. J'ai connu les jardins italiens. Forcément, mes goûts sont plus éclectiques. Est-ce que ça me perturbe, fait que le jardin est jugé un petit peu de, éclectique? Non, pas vraiment. Et l'essentiel est là, pour cette grande tradition franco-italienne du jardin organisé, j'ai beaucoup de tailles à faire. Le buis taillé, l'if taillé, les tilleuls taillés. Enfin, bref, je passe mon temps, quand je ne suis pas au clavecin, en train justement d'utiliser les cisailles. Oui, oui. Mais il y a aussi des clins d'œil, effectivement, à ma tradition anglo-américaine aussi. Oui. Etc., etc.
Il y a évidemment un clavecin dans ta maison de tirer.
Il y a des clavecins, effectivement, dans ma maison et surtout dans le quartier des artistes. Car la particularité de ce lieu, c'est que, évidemment, les grands concerts, mais les petits aussi, ont lieu dans mon jardin. Mais il y avait un autre phénomène qui a énormément aider, je dirais, le travail que nous faisons sur le plan pédagogique et la transmission. Ce village a vécu un sort, enfin, comme beaucoup de villages en France. C'est triste, mais en effet, on voit fait que le centre historique, qui est gothique, même avant, n'est-ce pas, avec son église, les alentours ont énormément souffert. Moi, j'ai pu, depuis une trentaine d'années, acheter les épaves, acheter les maisons abandonnées, les maisons sur le plan d'être démolies pour faire des parkings, mais de vivre effectivement cet exode vers on quitte l'épicentre, n'est-ce pas, pour favoriser des lotissements. Mmh. Et voilà.
On se situe dans le sud de la Vendée. Il y a
l'extrême sud de la Vendée, entre Luçon et Fontenay, pas loin de la frontière de la Charente-Maritime.
C'est très plat et il y a encore...
Très plat, non. On peut parler aussi du Bas-Bocage. Voilà, ouais, j'habite en proximité de la Grande Plaine de Luçon. En tout cas... j'ai conçu une sorte de mission pour acheter, rénover et créer un campus où nous logeons les jeunes musiciens. Mm-hmm. Maintenant, avec la fondation qui a été créée il y a quelques années, nous avons des activités 12 mois sur 12. Mm-hmm. Donc, les masterclass, les résidences, les concerts... Peut-être la chose la plus encourageante pour moi, c'est pas seulement la satisfaction d'avoir cette jeunesse qui arrive pour un masterclass avec Marc Moyon ou avec Paul Agnew, mais c'est aussi que le village, les habitants, qui n'avaient pas grand besoin, disons, en fait, de nous, en quelque... maintenant. Ils ont compris. Mm-hmm. La résistance de certains, il y a 30 ans, maintenant nous travaillons, nous vivons avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Et il y a une particularité de tous les concerts que nous travaillons en masterclass ou en résidence. C'est un point d'honneur de faire le concert final pour les habitants du village. Vous imaginez, il y a 30 ans, on a commencé dans la salle des fêtes, et ça aussi, c'est une obligation, en quelque sorte. Ça nous lie avec le village. Imaginons... un concert de Gesualdo ou un concert consacré à la musique vocale de Monteverdi ou les cantates à la française avec un public de gens du village. Et la plupart, n'est-ce pas, à l'époque, étaient tout simplement des agriculteurs. Et c'est parmi les moments les plus touchants, les plus de vivre avec un public qui normalement n'a pas beaucoup de contact avec cette musique, mais un public qui est curieux, reconnaissant en quelque sorte, mais dans le meilleur sens du mot. Oui, oui.
Quand tu mènes tes académies et le travail avec les jeunes musiciens attirés dans ton jardin, est-ce que tu sensibilises les jeunes musiciens à la nature? Qu'est-ce que tu leur dis de la nature?
Mais on aimerait bien croire que une jeune soprane, enfin, qui se trouve à côté de mon pont chinois, en écoutant les murmures des eaux. Et les oiseaux qui chantent et le vent qui souffle, oui, qu'elle puisse imaginer que ça contribue effectivement à l'expérience. Et oh, ça m'est arrivé. Je me souviens que l'une de mes amies, qui est une grande musicologue, on peut même dire que c'est la doyenne de la musicologie internationale. Elle était là en écoutant un théorbiste, un jour de ce grand luth, tout près de mon pont chinois, avec une très belle soprane, en train de chanter les airs de Michel Lambert. Et Catherine Massip, cette musicologue de renommée, et s'est mis debout parce qu'elle était assise sur l'herbe en disant: c'est certainement parmi les premiers moments depuis la mort de Monsieur Lambert où on fait cette musique dans un contexte naturel, n'est-ce pas, fait qu'il aurait aimé. Car en effet, le texte parlait des oiseaux et de l'eau. Et cette extraordinaire étroite interdépendance, n'est-ce pas, entre la nature, un jardin, si vous voulez, et la musique. Le hortus conclusus, c'est un lieu destiné pour tous les plaisirs, et surtout les plaisirs, n'est-ce pas, musicaux.
Ce chant des oiseaux, cette représentation de la nature, on la retrouve aussi dans les clavecins. Parce que les clavecins, ton instrument, ont la particularité d'avoir un décor peint sous leur couvercle, qu'on ne voit pas quand le clavecin est fermé, mais qu'on découvre quand le couvercle est ouvert. Et puis la table d'harmonie, qui est en bois d'épicéa souvent, est peinte aussi avec des fleurs, des oiseaux qui chantent, qui sont aussi le symbole d'un bois mort qui peut reverdir grâce à la musique. Il y a toute une symbolique de la nature qui est déjà contenue dans ton instrument. Est-ce que tu établis une connexion entre tous tes clavecins qui sont à tirer et ce qu'il y a dehors?
La décoration des clavecins, parfois, n'est-ce pas, favorise la nature, mais une décoration du clavecin peut aussi favoriser les exploits militaires, des différentes, ou les terribles, n'est-ce pas, moments assez sanglants dans la mythologie. Oui, c'est mon clavecin, l'un de mes clavecins est peint en chinoiserie, ou plutôt en japonaiserie, extraordinaire. Mais nous vivons visuellement, n'est-ce pas, une chinoiserie, n'est-ce pas, qui a pas beaucoup de rapport avec, je dirais, la nature comme vue au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Tout est possible. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour le clavecin, que c'était un décorateur dans le faubourg Saint-Antoine, n'est-ce pas, pouvait favoriser effectivement les scènes de tous les jours dans une Chine, je dirais, imaginaire complètement. Oui, oui, car en effet, ce côté onirique est aussi présent.
Les jours où tu te trouves seul dans ce grand domaine attiré, tu as tes clavecins. À quel moment joues-tu de la musique? Le matin, l'après-midi, le soir?
Mais si tu parles de moi, et quand moi je fais de la musique, évidemment, en fait, quand je suis stressé et j'ai un concert, n'est-ce pas, et je ne connais pas toutes les notes, ou j'ai un petit problème avec un passage, ça peut être 3h du matin. Oui, il y avait des moments avec les jeunes gens où on a décidé effectivement de commencer à faire la musique après les concerts et de terminer à 3h du matin en mélangeant beaucoup de musique et beaucoup de styles aussi. Donc, oui, un cursus très strict. C'est à suivre, mais pas forcément, enfin, n'est-ce pas, tous les jours. Mmh. Oui, oui. La spontanéité, je crois que ça, c'est un mot que j'aime beaucoup dans tout domaine. L'improvisation, joli mot. La spontanéité, très joli mot. Oui, l'inattendu, musicalement parlant. Oui. La musique baroque se prête à tout cela, mais dans un contexte, enfin, n'est-ce pas, d'une maison isolée à la campagne, avec parfois une vingtaine ou trentaine de jeunes gens ou de musiciens, c'est même surprenant parce que ce qu'on peut entendre. Oui.
Quand vous avez travaillé pour les photos, pour les illustrations, pour réaliser cet ouvrage magnifique, comment avez-vous collaborer ensemble? Quelle idée avez-vous eu ensemble pour travailler sur cet ouvrage? Qui a donné la ligne? Qu'est-ce que vous rêviez d'avoir?
Évidemment, on crée quelque chose, on passe 35 ans pour voir un jardin arriver à une certaine maturité. Oui, j'aime montrer mes enfants. J'aime montrer effectivement comment effectivement ça pousse, parce que c'est une question aussi fait de fierté, fait, n'est-ce pas? Il faut s'occuper des jeunes plantes. Je dis ça parce que je connais des amateurs de jardin, les créateurs de jardin, qui veulent garder leur création pour eux-mêmes. Et d'autres, c'est tout à fait le contraire. C'est pour inclure un public dans cette expérience. Et quand le jardin commençait à avoir une certaine beauté, après un nombre d'années, quand mes taupières, qui sont assez extravagantes, commençaient vraiment à attirer l'attention, j'étais, je dirais, très, très contente d'être, oui, de pouvoir dire, ben oui, venez, prenez des photos, voilà. Oui, on va ouvrir le jardin au public. Ça aussi, c'est une chose très importante pour moi. La musique, en quelque sorte, c'est un partage. On ne peut pas faire la musique pour soi-même. Certains peut-être, mais en tout cas. Et donc, le premier livre est sorti en Angleterre d'une extraordinaire femme spécialiste des jardins, Vivienne Russell, qui était là. L'ex-femme de Ken Russell, le grand cinéaste en Angleterre. Et elle a reconnu des choses même que moi je ne pouvais pas vraiment apercevoir. En fait, elle était intriguée par ce jardin qui était à la fois très jeune et qui voulait avoir quand même une certaine sérénité de l'âge. Enfin, et voilà. Et depuis, il y a des revues, des choses assez savantes comme assez populaires. Et je prends, je dis ça avec, oui, je prends un bain dans tout cela. Et Madame Royer, à la demande des vieilles maisons françaises, a répondu à cette proposition de faire un texte pour accompagner les photos prise par Philippe Abergel, qui est peut-être le plus important des photographes pour les vieilles maisons françaises. Et voilà. C'est... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on compare mon jardin avec... avec n'importe quel jardin du 18e siècle, n'est-ce pas, qui a l'ancienneté de quelques siècles, Courance, par exemple, que j'adore. Mais voilà, les choses poussent vite quand on les aime et on les soigne. Et donc, c'est pas mal.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aime son jardin, mais qui n'est peut-être pas un expert comme tu l'es? Qu'est-ce qu'il faut pour bien s'occuper de son jardin?
Je donne très peu de conseils. Les conseils, c'est, n'est-ce pas, c'est peut-être mieux. Bon, je peux parler effectivement, enfin, n'est-ce pas, des questions esthétiques, n'est-ce pas, pour le jardin franco-italien, n'est-ce pas, le 17e. Mais les conseils fait que demandent la plupart des gens, c'est bon, que dois-je planter ici? Quel genre de drainage, n'est-ce pas, va marcher pour que mes ifs, n'est-ce pas, ne meurent pas? Et j'ai des bestioles. Oh oui, comment vous traitez maintenant avec tout est interdit, n'est-ce pas? Non, ça, oui. Il y a d'autres qui peuvent donner ce genre de conseils. Oui, oui. La seule chose que je dis, c'est que vous savez, un jardin, c'est comme un enfant qu'on aime, on essaie de le gâter en quelque sorte. Un jardin, c'est une chose chère. Moi, je travaille beaucoup pour pouvoir effectivement soigner mon jardin. Ça, c'est un petit conseil que je sors assez souvent.
Est-ce que le jardin apprend aussi au musicien que tu es à vivre le temps différemment? À vivre le temps, à éprouver le temps, à avoir une expérience du temps un peu différente. Tu as une vie trépidante, tu prends l'avion très souvent, tu vas aux États-Unis, tu enseignes, tu joues, tu diriges. C'est un temps rapide. Et est-ce que le jardin est une expérience de temps un peu plus étirée, un peu plus long?
Mais là, vous touchez un nerf en ce moment. Évidemment, la patience... Même si c'est pour moi une discipline difficile, est absolument nécessaire pour un jardin. Et oui, c'est en contradiction totale avec ma vie, par exemple en ce moment. Je téléphone à mon jardin tous les jours, littéralement. Et je crois que ce n'est pas une exagération. Évidemment, je parle avec mon jardin, n'est-ce pas, en utilisant le jardinier. Il y a autant de bonnes nouvelles que de mauvaises, n'est-ce pas? Tout dernièrement, on fait les inondations, le vent meurtrier. Les choses qui ne... C'est comme une famille nombreuse où les enfants sont toujours malades ou ont des... Oui. Et est-ce que l'avion, le train aide une fois à New York ou une fois effectivement à Malte, comme la semaine dernière? Ah, c'est merveilleux de faire de la musique. Mais l'absence est cruelle. Oui. Est-ce que les gens qui travaillent aux arts florissants me tourmentent en disant, mais est-ce que vous serez vraiment d'accord pour rester attiré pendant 3 mois sans concert? C'est une cruauté épouvantable. Mais oui, j'arrive à un âge où de pouvoir passer 1 mois... Vous imaginez, vous plantez 30 000 bulbes de narcisse et vous loupez la floraison? Oui, mais ça arrive. Oui, oui. Ou quelqu'un me dit, oh là 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 là, le jardin rouge avait ce choix de tulipes cette année dans les grands pots italiens. Superbe. Est-ce que vous voulez les photos? Les photos? Oui. Non, c'est... Ouais.
Cher William, cher Bill, on pourrait parler des heures ensemble de...
Mais les questions sont tout à fait merveilleuses.
Sans parler des réponses. Nous devons nous interrompre parce que dans quelques minutes, nous allons retrouver les musiciens sur scène pour...
Ouh.
Oui. Pour préparer le concert de ce soir. Merci de ce moment incroyable. Merci, Bill.
C'est dommage qu'on ne vous voit pas, mais il y a parmi vous les gens qui assisteront au concert ce soir.
Oui.
Oh, mais ça, c'est bien. C'est merveilleux. 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 Merveilleux.
Alors, nous pouvons nous dire à ce soir, merci pour votre attention. Et je crois que Bill vous rejoint pour la dédicace.